anche in questo caso rimandiamo la discussione alla conclusione di questo primo giro di interventi che sarà chiuso dalla professoressa Chantal Jacquet, nota a tutti gli specialisti di Spinoza per i suoi contributi particolarmente tematici in questo caso, insomma, sul corpo in Spinoza. Mi piace ricordare anche il libro dedicato al tempo e all'eternità che ha segnato un altro punto importante negli studi cartesiani, spinoziani in Francia. Chantal Jacquet affianca questa sua attività di studiosa di Spinoza a un'attività direi di teorica innovativa, quindi anche qui sono contenta di ricordare gli studi che in parallelo a quelli su Spinoza Chantal Jacquet porta avanti sulla filosofia dell'odorato, anche perché mi sembra che, malgrado diciamo, la loro lontananza dagli studi spinoziani, percorrano però una via del corpo che è anch'essa nelle corde della Chantal Jacquet, studiosa di Spinoza. Quindi con piacere le do la parola sul tema Du corps à notre corps, la fabrique du corps propre chez Spinoza.
Merci Emanuela. Je voudrais remercier également le professeur Roberto Finelli et Francesco Toto et Pierre-François Moreau pour cette invitation. Alors, ma conférence est intitulée Du corps à notre corps. Après avoir énoncé au début de la partie 2 de l'éthique une définition générale du corps comme, je cite, mode exprimant de manière précise et déterminée l'essence de Dieu, donc qu'on considère comme chose étendue, et bien après cela, Spinoza fait état dans l'axiome 4 d'une sensation partagée, celle selon laquelle, je cite, nous sentons qu'un certain corps est affecté de beaucoup de manières. Nos corpus, quod sentimus. Tandis que la définition 1 concerne tous les corps, du plus simple au plus composé, l'axiome 4 renvoie à une communauté apparemment plus restreinte et que l'on serait tenté d'identifier comme celle des hommes qui font, à travers leurs sensations, l'expérience d'un corps propre. La démarche de Spinoza s'inscrirait alors, dans cette hypothèse, dans le prolongement de celle de Descartes, dans la sixième méditation, Descartes qui décrit les sensations internes et externes de ce corps qu'il considère, je le cite, comme une partie de soi-même ou peut-être aussi comme le tout. Chez Descartes, sensation de la tête, des mains et des membres dont le corps est composé, sensation d'être placé entre des corps, sensation d'éprouver leur incommodité ou leur commodité à travers le plaisir et la douleur. Et d'ailleurs, dans son commentaire de l'axiome 4 de la partie 2, Martial Guéroux invite immédiatement à faire la comparaison avec Descartes. Et en suivant ce fil conducteur, on serait enclin à penser, bon, qu'à la différence de Descartes, pour lequel la certitude de l'existence de mon corps ne peut être pleine et entière tant que le doute hyperbolique n'est pas levé, Spinoza affirmerait, à travers l'axiome 4, l'évidence de l'existence d'un corps propre. Or, en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Alors, si la confrontation avec Descartes peut présenter de l'intérêt, elle ne doit pas masquer le fait que l'axiome de Spinoza ne se réfère pas à l'expérience de ce que Descartes appelle un corps qui m'appartiendrait plus proprement et plus étroitement que pas un autre, et par lequel un certain droit particulier j'appellerais mien. Pourquoi? Eh bien parce que l'axiome pris en lui-même, l'axiome de Spinoza pris en lui-même, comme l'observe Pierre Macheret, laisse en suspens la question de savoir si ce corps est notre corps. Spinoza se borne à rapporter les sensations à nous qui les éprouvent en liaison avec un certain corps affecté, quoi d'homme. Et c'est cela, et seulement cela, qui fait l'objet d'une évidence et qui confère à l'énoncé le statut d'un axiome. Il ne s'agit donc ni de poser l'existence de notre corps, ni de définir sa nature de façon claire et distincte. Il ne s'agit pas non plus, comme chez Descartes, de faire état d'une croyance forte que ce corps m'appartient plus proprement qu'un autre, et d'invoquer les raisons qui légitiment cette croyance. Alors, à la lecture de cette action, la question qui se pose est de savoir pourquoi Spinoza ne part pas du corps propre et comment s'opère le passage du sentiment d'un certain corps affecté à notre corps. Alors, dans cette optique, il est nécessaire de comprendre, de se pencher en premier lieu sur la signification et la portée de cet axiome pour mieux cerner les raisons pour lesquelles l'idée du corps propre n'est pas donnée d'emblée. Alors, revenons d'abord sur le fait que ce qui est nôtre, ce n'est pas le corps, mais c'est le sentiment d'éprouver qu'un certain corps est affecté. Sentimus. Alors, ce sentimus, ça renvoie à la fois à une modification physique, l'affection dont le corps porte la trace, et ça renvoie à une modification mentale, le mode de pensée qui appréhende ce qui arrive au corps. Sentir, en effet, dans son acception la plus générale, c'est former les idées des affections du corps. C'est ce qui ressort de la démonstration de la proposition 13 de la partie 2, où Spinoza se réfère à l'axiome 4, et il en déduit puisque nous sentons qu'un certain corps est affecté de bien des manières, je cite, les idées des affections du corps, nous les avons. Il établit une équivalence entre sentir qu'un corps est affecté et avoir les idées des affections du corps. Alors, que signifie alors ce « nous sentons » ? Eh bien, s'il arrive à Spinoza de philosopher en première personne, hein, comme en témoigne le prologue du traité de la raison d'entendement, il faut constater sa prédilection pour la personne du pluriel plutôt que celle du singulier, hein, pour décrire l'expérience humaine dans sa forme cognitive et affective. Il préfère le « nous » au « je », ou il préfère des formules impersonnelles à la troisième personne, comme l'homme pense, etc. La chose est bien connue. Alors, dans le cas qui nous occupe, il faut noter que le « nous » auquel Spinoza se réfère, lorsqu'il dit que nous sentons qu'un certain corps est affecté de beaucoup de manières, ça renvoie certes à une communauté d'hommes qui partagent des propriétés pouvant faire l'objet d'une notion commune, mais ce « nous » n'est pas exclusif d'autres individus. Donc, il ne faut pas penser que chaque fois que Spinoza dit « nous sentons, nous ceci », ça renvoie aux hommes, ça peut être plus large, puisque Spinoza fait valoir aussi que les mecs sentent, hein, dans le scoli de la proposition 57 de la partie 3. Autrement dit, les bêtes ont les idées des affections de leur corps, que ces idées soient claires ou confuses, peu importe ici, les bêtes forment l'idée du corps à travers ce qui les affecte, et c'est cette idée qui constitue leur âme. L'axiome 4 peut donc englober tous les modes aptes à sentir et n'est pas l'expression d'un monopole humain. Mon problème n'est pas la question de la différence ici, puisque François en parlera cet après-midi, mais ce que je voudrais faire observer, c'est que le fait de sentir qu'un certain corps est affecté ne suffit pas à attester à lui seul de l'existence d'un corps propre et réfléchi comme tel. Puisque, comme on l'a déjà observé, Spinoza ne parle pas de notre corps, et encore moins de mon corps, mais d'un certain corps, poda, dont nous sentons qu'il est affecté. Alors, si Spinoza emploie cette formulation, plutôt que de dire « nous sentons que notre corps est affecté de beaucoup de manières », c'est qu'il ne présuppose pas que le sentiment du corps propre est donné, et qu'il a de bonnes raisons pour cela. Bien sûr, ce quodam n'exclut pas que ce corps puisse être notre corps. Ce quodam ne renvoie pas à n'importe quel corps, mais en lui-même il n'est pas un déterminatif possessif. Il exprime simplement la corrélation entre un esprit et un corps déterminé qu'il a pour objet. Ça veut dire que chaque esprit n'a pas pour objet tous les corps, mais un corps déterminé, c'est ce qu'indique le Godard. Et si l'esprit avait un autre objet, ce corps-ci, plutôt que ce corps-là, ce serait un autre esprit que cet esprit-ci. Et il faut remarquer que jusqu'à la proposition 13 de la partie 2, Spinoza traite du corps, des corps, il évoque le corps humain, mais que ce soit de façon définie ou indéfinie, au singulier ou au pluriel, il désigne le corps sans jamais l'accompagner d'un déterminatif possessif. On retrouve ainsi dans le corollaire de la proposition 13 une formule analogue à celle qui figure dans l'axiome 4 de la partie 2. Le corps humain existe tel que nous le sentons. Et ici, bon, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le sentiment révèle la nature exacte du corps, que celle-ci est conforme à la sensation. Il s'agit simplement d'affirmer l'existence du corps humain dans la mesure où nous le sentons, c'est-à-dire dans la mesure où nous avons l'idée des affections. Mais là encore, il n'y a pas de déterminatif possessif. Alors, la première fois que Spinoza mentionne une forme d'appartenance, et c'est discutable d'ailleurs, c'est au cours du scoli de la proposition 13. Je cite, « Nul ne pourra comprendre l'esprit humain de manière adéquate, autrement dit distincte, s'il ne connaît de manière adéquate la nature de notre corps, nostri corporis naturam. » Dans ce cas-là, toutefois, la formule renvoie peut-être moins à l'expérience d'un corps propre, à une réflexion sur soi, qu'à une démarche qu'on pourrait appeler démarche ad hominem, visant à faire comprendre aux hommes que s'ils veulent comprendre la nature de leur esprit, il faut se pencher sur la nature de leur corps. Les deux références suivantes à un déterminatif possessif à la troisième personne du singulier dans la proposition 14 et le corollaire 1 de la proposition 16 vont dans le même sens. Ils semblent davantage relever d'une logique de la corrélation entre un esprit et un corps déterminé que d'une logique de l'appropriation affirmant l'existence d'un corps propre distinct des autres. Je reprends simplement pour y mentionner le corollaire 1 de la proposition 16 et la proposition 14 qui précède. L'esprit humain est apte à percevoir un très grand nombre de choses et d'autant plus apte que son corps, ilus corpus, peut être disposé d'un très grand nombre de manières. Dans ce cas-là, son corps, ça renvoie à l'esprit corrélé à ce corps-ci, pas forcément un déterminatif strictement possessif. Et même chose pour le corollaire, la proposition 16. De là suit premièrement que l'esprit humain perçoit la nature d'un très grand nombre de corps en même temps que la nature de son corps, celui corporis natural, donc le corps auquel il est corrélé. Alors en revanche, le corollaire 2 de la proposition 16 va peut-être au-delà de la simple corrélation et il introduit la référence à un autre corps en tant que sa constitution est censée se distinguer de la nature des autres corps et posséder une spécificité. Je cite ce corollaire 2. Il suit deuxièmement que les idées que nous avons des corps extérieurs indiquent plutôt l'état de notre corps, notre corporis constitutionnel, que la nature des corps extérieurs. Mais la proposition 16 et ses corollaires sont particulièrement instructifs car finalement, paradoxalement, ils ouvrent et ils referment la réflexion autour du corps propre en laissant entendre que l'accès à son exploration directe est impossible. L'idée de notre corps ne saurait être donnée d'emblée parce qu'elle implique la possibilité d'une distinction avec les corps extérieurs. De fait, l'esprit humain perçoit la nature d'un très grand nombre de corps en même temps que la nature de son corps, et il risque dès lors d'être en proie à la confusion. Il prêtera au corps extérieur des propriétés qui renseignent moins sur leur nature que sur l'état de son corps. L'esprit n'a donc pas un accès immédiat à la connaissance de son corps. C'est ce que confirme la proposition 19. que je cite, l'esprit humain ne connaît le corps humain lui-même et ne sait qu'il existe qu'à travers les idées, les affections dont le corps est affecté. Or, comme vous le savez, et ça sera démontré dans la proposition 27, l'idée d'une quelconque affection du corps humain n'enveloppe pas la connaissance adéquate du corps humain. Donc, qu'est-ce qui est soi et qu'est-ce qui est à soi dans une affection? Eh bien, telle est la question. Et c'est pour cela que Spinoza précise, dans le corollaire de la proposition 29, chaque fois que l'esprit humain perçoit les choses à partir de l'ordre commun de la nature, il n'a ni de lui-même, ni de son corps, l'esprit corporis, ni des corps extérieurs, une connaissance adéquate, mais seulement mutilée et confuse. À cet égard, la connaissance de l'esprit lui-même, de son corps ou des corps extérieurs, sont également problématiques. J'insiste sur le « également problématique ». Il n'y a ni transparence de la conscience à soi-même par opposition à une opacité de la conscience d'autrui, ni un privilège cognitif du corps propre par rapport au corps extérieur. Tout est mis sur le même plan. Non seulement l'esprit n'est pas plus aisé à connaître que le corps, comme chez Descartes, mais notre corps n'est pas plus facile à comprendre que celui des autres. Qu'est-ce qu'alors qu'être soi? Comment se distinguer de ce qui n'est pas soi? Est-ce que ça a même un sens chez Spinoza? Alors, la tâche est difficile, mais elle n'est pas pour autant impossible ou exclue par Spinoza, puisque Spinoza insiste sur le fait que si l'ignorant est quasi inconscient de soi, le sage, en revanche, est conscient de lui-même, des choses et de Dieu. Donc, bien que ça intervienne tardivement au cours du processus éthique, la conscience de soi repose sur la formation d'une idée de soi à travers ce qui affecte le corps. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, en fait, tout va dépendre de la manière dont sont formées les idées des affections du corps. Si elles sont rapportées à l'esprit humain seulement, elles sont confuses, elles ne peuvent pas donner l'idée de soi, comme le montre la proposition 28 de la partie 2. Si nous suivons l'ordre fortuit des rencontres, nous pouvons croire que ce qui provient des corps extérieurs est nôtre, ou imputer ce qui est nôtre au corps extérieur, en raison de la nature d'affection qui englobe à la fois la nature de mon corps et celle du corps extérieur. Alors, ça ne signifie pas pour autant que la connaissance de notre corps nous échappe définitivement. Le Scoli d'Éthique 2, 29, révèle en effet que la connaissance adéquate de soi, de son propre corps et des corps extérieurs, est possible et qu'elle correspond à une détermination interne du dedans par différence avec une détermination du dehors. Et c'est le point sur lequel je voudrais à présent me pencher. Je cite ce texte. Je dis expressément que l'esprit n'a ni lui-même, ni de son propre corps, ni des corps extérieurs une connaissance adéquate, mais seulement une connaissance confuse et mutilée, chaque fois qu'il perçoit les choses à partir de l'ordre commun de la nature, c'est-à-dire chaque fois qu'il est déterminé du dehors extérieur, à savoir par la rencontre fortuite des choses, à contempler ceci ou cela, et non déterminé du dedans, interné, à savoir de ce qu'il contemple plusieurs choses à la fois, à comprendre en quoi ces choses se conviennent, diffèrent ou s'opposent, chaque fois en effet que c'est du dedans qu'il se trouve disposé de telle ou telle manière, alors il contemple les choses de manière claire et distincte, comme je le montrerai plus bas. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bon, eh bien, la détermination du dehors, je vais assez rapidement, elle revêt un caractère fortuit, elle porte le sceau de la fortune qui balote les hommes. Elle correspond à ce que Spinoza appelle l'ordre commun de la nature, impliquant l'existence de causes extérieures déterminant l'action. Cette détermination du dehors est donc nécessairement toujours une passion provenant du premier genre de connaissance, impliquant une connaissance d'une causalité inadéquate. En revanche, la détermination du dedans est toujours une action qui relève du second ou du troisième genre de connaissance, et elle renvoie notre nature seule, conçue comme cause totale ou adéquate. Ça, c'est bien connu, et ce qui importe de remarquer, c'est que La détermination du dehors implique que l'esprit se fixe sur une seule chose à la fois et passe de l'une à l'autre, selon ce qui advient, sans qu'il perçoive les rapports et les connexions entre les choses. C'est pour ça que la connaissance reste mutilée, puisque la chose est coupée des causes qui la produisent et dénuée de liens nécessaires avec ce qui la précède, ordre fortuit. En revanche, la détermination du dedans implique la contemplation de plusieurs choses à la fois, j'insiste sur le plusieurs choses à la fois, puisqu'elle exprime l'aptitude à embrasser des rapports qui permettent d'établir des notions communes, des convenances, des distinctions, des oppositions. Et donc, c'est par une détermination du dedans que l'esprit peut appréhender son propre corps, le corps propre, et le distinguer des autres, non pas en l'isolant, non pas en le coupant des autres, mais en percevant les rapports qui le relient aux autres par la saisie des convenances et des différences. Et donc, la détermination du dedans n'a rien d'un repli sur l'intériorité. Elle implique au contraire la multiplicité des actes, des rapports, et au fond, en réalité, elle atteint son acmé lorsqu'au lieu de rapporter toutes les choses à l'esprit seul, l'entendement les rapporte à Dieu et saisit une multiplicité de choses à la fois. On ne peut donc saisir son corps propre en le rapportant à l'esprit seul, il faut nécessairement le rapporter à Dieu et saisir une multiplicité de choses à la fois. La détermination du dedans correspond donc à cet effort pour faire en sorte que l'entendement embrasse une ou une tutou, l'essence des choses singulières, en tant qu'elles sont contenues dans les attributs de Dieu. Et ça, c'est possible, puisque Spinoza nous dit que l'esprit peut faire en sorte que toutes les affections du corps, autrement dit les images des choses, se rapportent non plus à l'esprit seul, mais à l'idée de Dieu. Dès lors, c'est par la même opération que l'esprit forme l'idée de son corps, l'idée des choses et l'idée de Dieu. Toute idée adéquate est en même temps une connaissance de soi, des choses et de Dieu. En effet, l'idée de soi, des choses et de Dieu, est donnée à travers la formation de la connaissance adéquate, et plus particulièrement à travers le troisième genre de connaissance, et je parle d'idée de soi ici, et l'affect qui s'ensuit, la quiescentia, in se ipso. L'entendement humain, en tant qu'il connaît, a l'idée d'une chose, et il en éprouve une vraie satisfaction de soi-même, c'est-à-dire il éprouve de la joie avec l'idée de soi comme cause. Voilà pourquoi toute idée adéquate d'une chose quelconque est en même temps une idée de soi et une idée de Dieu, puisque la connaissance des choses singulières enveloppe celle de leur cause. Et donc, d'un point de vue ontologique, le soi n'est rien d'autre que l'entendement en acte ou l'idée du corps subspecie caritatis. En effet, notre entendement est une partie de l'entendement divin ou idée de soi que Dieu forme. Cela revient à dire que l'idée de soi d'un homme n'est qu'une partie de l'idée de soi formée par Dieu. Donc être soi, c'est donc se savoir en un autre et comprendre le rapport d'immanence à Dieu. Au fond, être soi, c'est se savoir compris dans l'entendement divin comme partie dans un autre. Dès lors, il est clair que la détermination du dedans n'implique pas l'instauration de frontières avec le monde extérieur et le repli sur l'intériorité. C'est la détermination du dehors, au contraire, qui conduit au repli sur l'esprit seul, enfermé dans la contemplation d'un objet isolé, au hasard des rencontres. Donc, être déterminé du dedans, c'est donc être paradoxalement ouvert aux autres et à la nature tout entière. Être déterminé de l'extérieur, c'est être enfermé en soi, ou dans la contemplation admirative d'un objet qui oblige l'esprit. Et donc, au fond, Spinoza, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, Spinoza repense de fond en comble les catégories du dedans et du dehors, donc, qui sont évidemment problématiques dans une pensée, au sein d'une pensée de la cause immanente. Hein. Ces catégories n'ont de sens que pour les modes finis, pour la substance, cette distinction n'a pas cours, puisqu'elle se résorbe dans l'expression d'une seule et même causalité immanente. et elle n'a de pertinence que si on ne considère pas la substance en tant qu'absolument infinie, mais en tant qu'elle s'exprime par la nature de notre esprit ou de notre mode fini. Alors, pour les modes, ces catégories n'ont pas davantage de valeur absolue, il n'y a pas d'intériorité ou d'extériorité en soi, il n'y a d'intériorité, d'extériorité qu'en un autre, c'est-à-dire à l'intérieur de la substance. Et d'autre part, il n'y a d'extériorité que relativement à une intériorité affectée. Si notre propre corps n'est pas affecté, notre esprit ne peut pas percevoir l'existence des corps extérieurs. Donc, dans l'entrelac des modes finis, l'intérieur et l'extérieur sont toujours imbriqués et ne peuvent pas être pensés comme des réalités distinctes et séparées. Donc, en ce sens, le mode se meut toujours dans l'entre-deux, il est le lieu des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, dans ce système d'échange et d'affect permanent, ces notions d'intérieur et d'extérieur prennent une signification nouvelle. Et je dirais que Spinoza procède à un double renversement de ces catégories, une refonte, puisqu'il met en garde aussi bien contre une pseudo-intériorité que contre une extériorité illusoire. Alors, ce double renversement, je dirais que ça consiste à montrer d'une part que le dehors est dedans, et d'autre part que le dedans est dehors. Alors, pour le dire rapidement, Spinoza souvent nous révèle que ce que nous croyons être intérieur est en réalité extérieur. Tandis que ce qui apparaît comme une détermination interne, c'est souvent une détermination du dehors qui s'ignore. Et c'est pour ça que Spinoza déjoue l'illusion d'un sujet personnel, d'un soi imaginaire, qui n'est que de l'altérité occulte. Ce que nous pensons être nôtre, ce que nous pensons, par exemple, nous appartenir de façon intime et singulière, à savoir nos dispositions, nos habitudes, nos souvenirs et nos passions, eh bien, en réalité, ce sont des éléments qui sont le fruit de l'intervention de causes extérieures. Nos jugements, ou nos habitudes, nos passions ne sont pas nôtres au sens rigoureux du terme. Il porte la trace de la manière dont les choses extérieures nous affectent. Et donc, ils sont au fond le fruit d'une intériorisation de l'extériorité. Ce que nous croyons nous être propre, eh bien, est constitué par des vestiges de causes extérieures, dont la nature se mêle à la nôtre et l'imprègne à notre insu. Et donc, c'est pour ça que je disais que l'extériorité et l'intériorité sont à redéfinir, puisque l'extériorité ne se définit pas nécessairement par ce qui est en dehors de nous, elle est aussi en nous, sous la forme de la présence des traces des corps qui nous affectent. L'autre est en nous et continue de l'être malgré son absence, au point parfois de nous hanter de façon hallucinatoire, puisque nous continuons d'imaginer en son absence. Je passe sur ce point. Mais, donc Spinoza dissipe cette illusion de la personnalité qui serait fondée sur l'idée d'une sphère intime privée. Le soi ne s'identifie pas à la mémoire, à la liaison de souvenirs, suivant l'ordre imaginatif fortuit des rencontres. Mais Spinoza dissipe aussi l'illusion de la fausse extériorité. Ce que nous croyons être extérieur peut être en réalité intérieur. Ce qui pourrait passer pour une détermination du dehors, ça peut être une vraie détermination du dedans. Un cas de figure, si une cause extérieure nous affecte parce que nous avons de commun avec elle, les vestiges qu'elle laisse ne correspondent pas à une détermination du dehors, mais du dedans. Il y a concours de deux causes adéquates, et l'effet peut s'expliquer par ma nature totale, puisqu'il correspond à une propriété de mon corps, aussi bien que par la nature totale de l'autre, puisqu'il correspond à une propriété de son corps. Donc, l'extériorité n'est pas synonyme systématiquement d'aliénation et d'inadéquation. L'extériorité avec laquelle on compose est en réalité intériorité. Et de ce point de vue, il faut distinguer, je dirais, l'extériorité de l'altérité. Les autres ne sont pas extérieurs. Au fond, ils font partie de mon corps propre, pourrait-on dire, s'il y a convenance de nature avec eux. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, Spinoza ne parle pas de corps extérieur, mais d'autres corps ou de plusieurs corps. Donc il n'y a pas extériorité mais concours et union au point de pouvoir former un seul et même corps. Et dans ce cas-là, dans l'action, les corps unis peuvent constituer une seule et même chose singulière avec soi. Donc le corps propre n'est pas forcément un corps exclusif des autres, c'est un corps inclusif dans le cas du concours. Donc être soi, ça peut être partager des propriétés avec les autres corps humains. Donc être soi, c'est en même temps inclure l'autre que soi, lorsque cet autre n'est pas synonyme d'aliénation, mais de convenance et d'intériorité par le biais des notions communes. Je m'arrêterai sur ce point.
Grazie davvero a Chantal Jacquet per questa relazione incentrata sul difficile problema della relazione a sé in Spinoza attraverso il corpo.